vous savez qu'une nouvelle radio fait sa révolution chez Radio Galère ?
Ah oui.
Oui, c'est numérique, gratuit et anonyme, et ça s'appelle le DAB+. Son et réception de meilleure qualité, et prochainement, une nouvelle couverture de diffusion sur Aubagne sera déployée.
Et comment on pourra s'équiper ?
Oh, c'est simple. Un poste compatible DAB+ ou un adaptateur et ça fera l'affaire.
Heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Galère, toujours sur 88.4 et sur le DAB, éventuellement, et sur Internet, comme vous avez entendu. Heureux de retrouver Habib, que je salue.
Salut.
Voilà, on ne retrouvera pas aujourd'hui Roselyne, qui a subi une petite intervention ce jour-ci. Et donc, je lui souhaite meilleure santé. Et puis, on accueille donc à la technique qui va se présenter.
Bonjour à tous et à toutes. Alors, pour moi, c'est Brandon.
Voilà. Brandon. Dan ou Don?
Brandon,
d'accord. Ça sonne un peu irlandais ou autre, c'est ça?
Alors, c'est américain plutôt.
C'est plutôt américain, d'accord. Mais oui, donc, l'Irlande et l'Amérique, il y a des liens.
C'est
quand
pas
même.
Vrai.
Okay. Bonjour Brandon et merci donc d'assurer la technique aujourd'hui.
Ben, je vous en prie.
Donc, aujourd'hui, ben, l'actualité, elle est toujours centrée, principalement l'actualité internationale, sur le, appelons ça le conflit au Proche-Orient, pour faire simple. Mais ouais. On va le reprendre par tous ses aspects. Parce qu'en fait, si on s'en tient aux médias officiels de grande diffusion, on n'y voit pas clair ou on n'y voit pas clair sur tout. Hein, parce qu'effectivement, il y a différents niveaux et différents aspects et tout n'est pas expliqué clairement. Alors je commence par l'aspect civil et humanitaire du conflit, c'est-à-dire celui dont on parle et qui est en fait le plus décourageant, en ce sens qu'on nous assène des faits, des chiffres, les chiffres qui sont des nombres de morts, des nombres de morts d'enfants, des nombres de morts de femmes, des nombres d'enfants de personnes âgées, etc. Et on nous assène en même temps l'impuissance de ce qu'on appelle, hélas, la communauté internationale, mais qui n'en est pas une, puisqu'en fait, elle est impuissante. Si tout le monde autour de la table internationale était d'accord, il y aurait des résultats. Mais il se trouve qu'on est dans l'impuissance, c'est-à-dire on peut verser toutes les larmes de son corps, chacun de vous ici et là, les familles palestiniennes encore plus, évidemment. Et en fait, la communauté internationale, elle ne peut pas bouger. Alors, non pas que dans la communauté internationale, qui est très vaste, ben, il y a presque 200 États qui sont à l'ONU, puis dedans, il y a des grands États, et la communauté internationale est paralysée parce qu'il y a un État qui ne veut pas bouger. Et ça, il faut être clair là-dessus.
Il a le veto, quoi.
Voilà, il a le droit de veto, il ne veut pas bouger. Et en plus, Israël étant son allié favori, j'allais dire, de très très longue date, il bougera très très lentement et difficilement. Donc ça, c'est l'aspect civil. Cet aspect civil, donc, il est paralysant, très douloureux à supporter, puisqu'on peut, à longueur de journée, regarder des images épouvantables de Gaza, et en fait, on est impuissant. Alors, la puissance est compensée, heureusement, ici et là, mais ça ne suffit pas par des manifestations de rue, qui sont des espèces de protestations humaines en disant « arrêtez ce carnage ». Mais chacun sent bien, quand il va dans ces manifestations, qu'elles soient grosses, petites ou moyennes. Alors, il y en a des très, très grosses, on le sait, en Angleterre, en Indonésie, ça a été énorme, etc. Il y en a de beaucoup plus petites en France, mais il y en a quand même. Mais on ne sort de ces manifestations que un peu rasséréné, parce qu'on n'est pas tout seul, et il y a d'autres gens qui partagent notre émotion, mais en fait, en même temps, avec ce sentiment que ça n'a pas fait bouger les choses. Et on dit, combien de temps et combien de manifestations faudra-t-il accumuler pour que ça ait un effet sur les politiques ? Alors, on se retrouve dans une situation qu'on a déjà vécue, qui était aussi douloureuse puisqu'elle a duré longtemps. Si vous vous souvenez, parce qu'on était déjà sur les ondes de Radio Galère à ce moment-là, de la campagne précédant l'agression des États-Unis contre l'Irak, pendant des mois et des mois, dans le monde entier, il y a eu des manifestations contre cette guerre annoncée et dont chacun savait que les prétextes étaient faux, c'est-à-dire les armes de destruction massive et tout, tout ça, vous le connaissez. Et en fait, donc, il y a eu des manifestations massive partout. Et puis en fait, la guerre a quand même eu lieu, et elle a eu lieu sous des formes qui ressemblent dramatiquement aux formes que ça prend à Gaza, c'est-à-dire l'armée américaine arrive, tapis de bombes, et on casse tout. Et on casse tout, logements, hôpitaux, écoles, tout y passe, système d'adduction d'eau, il ne reste rien. Bon, ce qui se passe à Gaza, c'est à plus petite échelle exactement ce qui s'est passé sur Bagdad et sur le territoire irakien au mois de mars 2003. Et donc, quand on a été, comme nous l'avons été, membre actif dans cette opération donc, de lutte, enfin, de protestation et de lutte anti-guerre, on a un précédent très très lourd, puisqu'on le voit sur une plus petite échelle, le même mécanisme qui se reproduit, c'est-à-dire non pas les États-Unis, mais Israël, armé par les États-Unis, c'est les mêmes avions que ceux qui bombardaient Bagdad, les mêmes modèles, les mêmes missiles, etc.
Bon, hein,
produire les mêmes effets et le même blocage. De toute façon, alors c'était encore pire en Irak, puis c'était les États-Unis eux-mêmes qui bombardaient, ils n'allaient pas s'arrêter tout seuls. Mais là, on a affaire à leur allié privilégié. Et les États-Unis, alors c'est pas possible de dire, ne sont pas en capacité d'arrêter Israël. Ça me paraît difficile d'articuler un raisonnement comme ça. Hein. Bon, ils sont pas en capacité, mais ils ne veulent pas arrêter Israël. Alors, à quel moment changeront-ils d'avis? Ça dépendra effectivement de ce qui va se passer en Israël, dans l'opinion israélienne. Ce qui va se passer, ce qui se passe déjà en partie, et c'est très intéressant à suivre, dans l'opinion aux États-Unis, il y a des manifestations contre la guerre de Gaza aux États-Unis. Donc ça, c'est une innovation. Tout ça sur fond de crise sociale, économique très profonde aux États-Unis, sur laquelle je dirai un mot pendant l'émission. Bon, ça, c'est la situation au niveau civil et au niveau humanitaire. C'est-à-dire, en même temps, une réaction normale d'humanité minimum. C'est-à-dire, c'est insupportable à regarder. Donc, il faut le dire. On le dit par tous les moyens à votre disposition. Et en même temps, on voit bien qu'on n'avance pas beaucoup. Et pourtant, il faut surtout...
C'est un génocide.
Pas, voilà. Il ne faut surtout pas arrêter. C'est-à-dire, si on arrête, ils ont gagné. Hein. Donc, il ne faut surtout pas arrêter, même si on a chaque fois le sentiment d'une très, très grande faiblesse par rapport à cet appareil militaire et cet appareil d'information et de propagande qui est extrêmement lourd à supporter. Bon. Pas grand-chose de plus à dire sur là-dessus, si ce n'est que de ce conflit, nécessairement, sortira une réforme de l'ONU. Car... où l'ONU disparaît, parce qu'elle a manifesté son impuissance, hein, puisqu'elle est dans l'incapacité de maintenir la paix, c'est un de ses objectifs, hein, ou bien l'ONU réforme un certain nombre de ses règles pour ne pas se trouver dans cette situation d'impasse totale dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Alors, je ne sais pas ce qui se passera, mais on a quelques idées. Il faudrait peut-être qu'il y ait plus de membres au Conseil de sécurité, qu'il y ait un système de majorité qualifiée à l'Assemblée générale, c'est-à-dire il n'est pas acceptable... du point de vue même du droit et de la logique, que quand il y a 190 États qui votent contre deux autres, je pense au blocus contre Cuba, que ça ne fasse aucun effet, que ça dure pendant 15 ans comme ça, et tous les ans, il y a 190 États qui disent qu'il faut arrêter le blocus, et deux États qui disent qu'on continue le blocus, qui s'appellent toujours les mêmes, les États-Unis et Israël, et le blocus continue contre Cuba. Et donc ça, c'est des règles qui tiennent plus debout, qui sont d'assurance.
Ouais,
donc, hein, il faudra bien donc qu'un jour ou l'autre, l'ONU et toutes les puissances qui sont là autour d'une table fixe des règles du jeu où on tienne compte de la taille des pays, de l'importance de la majorité à l'Assemblée générale et du poids de chacun. Parce qu'effectivement, dans ces votes à l'ONU, vous avez le vote des îles Marshall, 100 000 habitants, le vote de Nauru, 20 000 habitants et tout, qui sont en fait des satellites des États-Unis. Alors, ça fait joli sur le papier au niveau des votes exprimés. Ça ne veut rien dire. Hein. Le fait que les îles Marshall, qui sont de fait une colonie des États-Unis, votent comme les États-Unis, ça ne surprend personne et ça n'avance à rien du tout. Donc il y a tout ça qui est à éclaircir. Alors c'est pas moi qui l'éclaircirai, mais nécessairement ça fait partie de ce qui devra sortir du caractère insupportable de ce qu'on a sous les yeux à Gaza aujourd'hui. Ça prendra le temps, mais heureusement il y a un certain nombre de puissances qui en sont conscientes, qui le disent et qui ne lâcheront pas les États-Unis continuer à faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Rien de plus à dire hélas sur l'aspect civil de cette guerre. Sur l'aspect militaire, alors je m'arrête sur l'aspect militaire parce que, premièrement, on en parle très très peu. Or, il y a un aspect militaire. Il est important de différentes façons. La première façon, c'est de voir ce qui se passe sur le terrain dans la bande de Gaza, là où l'armée israélienne est rentrée, avec ses chars d'assaut, tous ses moyens et tout. Il se trouve que là, elle a affaire à une difficulté qu'on connaissait assez peu dans les écoles de guerre, c'est que, en fait, les combattants du Hamas se sont organisés pour mener une guerre depuis des souterrains où ils sont installés, où ils ont du matériel, où ils ont des vivres, où ils ont des munitions. Et donc, effectivement, le combat a lieu de temps en temps quand les gens qui sont sous la terre montent sur la terre et attaquent ceux qui sont sur la terre. Et donc, il y a de fait, à Gaza même, dans la ville de Gaza, puisque vous savez que dans le nord de la bande de Gaza, il y a une ville qui s'appelle elle-même Gaza, il y a des combats. Il y a des combats entre l'armée israélienne qui arrive avec ses chars d'assaut et tous ses moyens et ses avions par-dessus et ses hélicoptères. Et puis, de temps en temps, à un endroit inattendu, il sort des combattants du Hamas. Et là, il y a effectivement des affrontements.
Je ne sais pas si tu n'as pas mentionné...
Dis-moi.
...que les Israéliens... chassent les gens de l'Express, enfin de la presse.
Oui. Mais ils tuent les journalistes, ils ne savent pas assez vite.
On a qu'un son de cloche, quoi, voilà,
tout à fait.
De la part des Israéliens, alors qu'il y a pas mal des médias qui n'ont pas été acceptés, qui les ont chassés et qui veulent vraiment pas savoir ce qui se passe à Gazaville et à Gaza elle-même. Voilà.
Alors effectivement, ce que je vous dis est moins facile à découvrir que ce qu'est la grande presse, mais on arrive à savoir sur un certain nombre de sites en langue anglaise, je ne suis pas arabophone moi-même, mais en langue anglaise on arrive à voir des choses où effectivement on sait qu'il y a des combats comme ça. Mais c'est des combats du fort contre le faible, c'est-à-dire des gens qui ont des chars d'assaut, des gros moyens, et puis quelques personnes qui sortent de leur trou, si j'ose dire, hein, et qui, par des moyens appropriés, parce que c'est assez facile de détruire un char d'assaut quand on a des petits moyens nécessaires, et puis après repartent dans leur trou, hein. Et c'est ça la guerre militaire qui a lieu à Gazaville aujourd'hui, c'est celle-là, dont on parle peu. Mais elle a lieu, ce qui veut dire que l'armée israélienne n'est pas en capacité de passer comme un énorme bulldozer et d'avancer où elle veut. C'est pas vrai. Il y a une vraie résistance. Et ça ouvre une réflexion qui est peu commune, parce que je pense que les auditeurs n'ont pas l'habitude, enfin, sortent pas d'école de guerre et n'ont pas des diplômes d'officiers de réserve.
Mais, non, je pense pas.
Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, que la guerre souterraine est très compliquée pour celui qui est au-dessus. C'est-à-dire qu'aucun des moyens de détection contemporains, le radar, la conduite des drones, toutes ces choses-là, toutes les images et tout, ça ne fonctionne pas sous terre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la plus grande armée du monde juste au-dessus de vos têtes, si vous êtes dessous, ils ne savent pas où vous êtes, vous ne savez pas combien vous êtes, ils ne savent pas par quel trou vous allez sortir, à quel moment, ils ne peuvent pas capter vos communications. Il y a une coupure nette au niveau des moyens modernes d'information, de détection de l'adversaire. Il y a une coupure nette entre le dessus et le dessous. Le dessus ne voit pas, ne comprend pas, ne sait pas ce qui se passe dessous. Et donc ça, c'est
d'ailleurs, ils sortent pas de leur char. Hein.
Parce qu'ils ont peur. Le type qui le soldat israélien.
Ce serait potentiellement, je dirais, très bête de leur part de sortir de leur trou ou de leur char, parce que je pense qu'à la seconde où ils sortiront la tête, ils...
Ben voilà.
Ils gagneront une balle, et puis pas autre chose.
Puis c'est tout, c'est exactement ça.
C'est ça.
Et donc en fait, ils ne sont pas si tranquilles que ça militairement, parce qu'ils ne savent pas où est l'ennemi. L'ennemi, tout d'un coup, va sortir comme un champignon, redisparaître, il sortira un kilomètre plus loin, on ne sait pas quand. Ni comment.
Ça me fait penser un petit peu aux suricates qui sortent et qui rentrent de leur trou.
C'est ça. Et en fait, donc on a affaire à un nouveau type de guerre qui n'est pas connu, mais sur lequel je m'arrête un peu pour bien comprendre que ce n'est pas facile. Il y a eu des antécédents. Vous vous souvenez peut-être que dans les débuts donc, de l'offensive russe en Ukraine, on a parlé assez longuement de la bataille de Marioupol.
Ouais.
Vous vous souvenez peut-être du nom. Bon, c'était une ville où il y avait une énorme aciérie construite du temps des soviétiques. Et tout.
Ouais.
Et sous cette aciérie, il y avait effectivement toute une série de couloirs. Elle avait été conçue pour résister à une attaque nucléaire des États-Unis, enfin des adversaires. Et donc les bataillons nazis ukrainiens qui étaient installés dans cette aciérie, étaient dessous Et l'armée russe a mis très très longtemps à arriver à les détecter. Parce que vous envoyez un type qui ne sait rien dans le premier trou, il meurt dans l'instant. Hein, les autres l'attendent, il disparaît. Donc ils ont mis très longtemps, et c'est pour ça que la bataille de Mariupol a duré si longtemps, parce qu'il a fallu que les Russes maîtrisent ce type de bataille, c'est-à-dire comment pénétrer sous terre sans se faire éliminer l'un après l'autre. Hein. Parce que vous sortez, vous arrivez à la lumière, hein, les autres vous attendent, vous s'en jouent, vous ne passez pas 10 secondes debout. Hein. C'est le jeu, c'est tout à fait clair.
Gaza, elle-même, elle fait, je crois, 130 km carrés.
Oui, oui.
Et vous avez des tunnels environ 370 km avec 60 mètres de profondeur.
Voilà.
C'est ça qui est...
Ouais, c'est quand même assez dingue. Ça me fait penser comme le couloir pour Hitler à l'époque, à l'armée rouge.
Pareil.
Et par la même occasion, il avait aussi un bunker, si je me rappelle bien, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait, oui.
Et puis, il y a aussi, comme à Paris, avec les catacombes, où ils ont énormément de galeries aussi, par la même occasion.
Tout à fait.
Donc, c'est un peu tout à fait le même contexte. Tout à fait. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport au bunker, il y en a encore, d'ailleurs, encore abandonnés à l'heure d'aujourd'hui, qui sont pas mal visités, d'ailleurs, par les urbexeurs.
C'est vrai, ça fait partie des urbex classiques.
J'ai pu voir ça, d'ailleurs.
Tu l'as fait
Pas mal. Pas mal de fois, j'en ai vu. Donc, c'est quand même assez hallucinant, quand même, ce qu'il y avait sous terre, de leur part.
Ah oui, tout à fait. Et en fait, c'est une autre guerre, et ça, on n'est pas habitué. En fait, elle a lieu en ce moment, mais ça, j'arrive finalement à trouver des infos, il n'y en a pas beaucoup, parce que ça les dérange, parce que là, ils ne sont pas du tout gagnants.
Non, pas du tout. D'ailleurs, ils avancent 4-5 mètres, ils reculent aussitôt.
Alors, ils peuvent massacrer des centaines, parce que le rythme, alors je le dis quand même, puisqu'on le sait, il a été affiché, je le prends pour ce qui a été dit, il y a aujourd'hui 150 enfants qui meurent tous les jours assassinés à Gaza. 150 enfants qui meurent assassinés à Gaza, c'est exactement le rythme des liquidations d'enfants à Auschwitz. Bon, c'est ça, c'est un parallèle qu'il faut faire.
Bien sûr. Mais d'ailleurs, je crois même qu'il y avait un peu moins, si je ne dis pas de bêtises, pour Auschwitz, si je ne dis pas de bêtises.
Le chiffre est un peu inférieur.
Oui, un peu inférieur. Je crois que c'était 40 000 ou une chose comme ça, je crois, de souvenirs.
Voilà, oui. Mais au niveau du rythme quotidien, je dirais, on est autour de 140-150. On en est là. C'est ça qu'il faut bien avoir. Enfin, c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que l'élimination des enfants palestiniens est un objectif de guerre. Car il faut bien comprendre qu'il y a une guerre.
Et la génération qui reste, ça va être vraiment une génération.
Il y a
une phrase qu'un ami m'avait sortie, donc un ami qui est parti à l'armée maintenant, et chasseur alpin d'ailleurs.
Ouais.
Il m'avait dit une chose, si je m'en rappelle bien, il m'avait dit que pour un groupe militaire, des enfants qui font partie donc du pays ennemi sont des potentiels futurs ennemis et donc ils préfèrent les éteindre avant qu'ils le deviennent.
Tout à fait. Ah.
D'ailleurs, il m'avait montré aussi une vidéo où une mère avait donné donc une bombe à un enfant et qui courait le long de la rue en direction d'un char militaire pour pouvoir essayer de les tuer tout simplement. Et il s'est fait abattre par un tireur d'élite un peu plus loin avec un sniper directement.
Donc à partir, on devient un combattant très très jeune dans ces circonstances dramatiques. Donc l'enfant est un objectif militaire, effectivement.
Bien sûr.
Soit dans l'immédiat, parce que comme tu le dis, il a une bombe à la main, soit parce qu'il deviendra un combattant vu ce qu'il aura vécu et ce qu'il aura souffert. Voilà.
D'ailleurs, pendant la guerre de la Syrie, il y a eu des jeunes de 14-15 ans qui ont été enrôlés par Daesh, Nusra, c'est vrai.
Oui, bien sûr, la radicalisation, bien sûr, évidemment.
Alors ça, c'est le premier aspect militaire, c'est au sol, à Gaza même. Voilà. Il y a un autre aspect militaire, c'est en Cisjordanie. En Cisjordanie, théoriquement, il ne se passe rien. Alors, ce n'est pas vrai du tout qu'il ne se passe rien, puisqu'effectivement, profitant du trouble et du fait que le gouvernement israélien de Netanyahou est un va-t-en-guerre et un pouce au crime, les colons les plus radicaux sont en train de s'accaparer les dernières terres appartenant à des paysans palestiniens, avec l'armée qui les appuie, etc. Bon. Donc on a une poursuite un peu frénétique de ce qui reste possible à coloniser, c'est-à-dire pas grand-chose encore, mais prendre les dernières terres palestiniennes possibles.
Il reste environ 20% de la Cisjordanie.
Voilà. Donc la guerre continue aussi sous cette forme-là. C'est-à-dire vous voyez arriver un monsieur qui est appuyé par un char d'assaut et puis des types en uniforme avec des pistolets mitrailleurs. Il dit « Maintenant, tu t'en vas ». Ici, c'est chez nous. Bon, autrement, tu meurs. C'est ça aussi. Ça, c'est un aspect. C'est moins vu que la guerre classique, c'en est un deuxième. Le troisième, ça se passe à la frontière sud du Liban, ou à la frontière nord d'Israël, puisque c'est la même chose, ouais. Puisque là, on a affaire à une zone d'incertitude, y compris sur la limite exacte de la frontière, et qu'il y a eu des franchissements de cette frontière libanaise reconnue internationalement par l'armée israélienne à plusieurs reprises, et que le Liban, par l'intermédiaire du Hezbollah qui intervient, mais le Hezbollah, ce n'est pas des mercenaires libanais, c'est des Libanais qui ont des élus au Parlement à Beyrouth, c'est un parti politique.
Même des ministres.
Oui, c'est un parti politique qui a une branche armée, et c'est cette branche armée qui est la meilleure partie de l'armée libanaise, qui par ailleurs n'est pas très très costaud. Bon, c'est ça qu'il faut dire.
Même pas armée.
Voilà. Et donc il faut bien savoir, et c'est ce qui se passe tous les jours maintenant, et ce qui est confirmé par le leader du Hezbollah qui s'appelle Nasrallah, ça a été confirmé encore dans son dernier discours, on ne les laissera pas venir. Quand ils sont venus chez nous, ils ont fait beaucoup de mal, hein, et on ne veut pas qu'ils viennent. Le Liban est un pays indépendant et souverain, on ne les laissera pas faire. Et il faut savoir que malgré cette résistance du Hezbollah et d'une partie du Liban, les Israéliens n'ont jamais cessé, n'importe quand, n'importe quel jour, n'importe quelle nuit, de bombarder un endroit au Liban quand ils en avaient envie. Et ça se poursuit toujours. On va détruire une centrale électrique, un réseau d'adduction d'eau. On va faire du mal au Liban. Pourquoi on fait du mal au Liban? Parce que le Liban a accueilli des réfugiés palestiniens.
Il y a 500 000 environ.
Voilà, 500 000
qui
sont...
C'est quand même hallucinant de se dire qu'ils protègent et ils les prennent donc sous leurs ailes, puis par la même occasion, derrière, ça joue à toucher couler et puis on tape un peu sur tout ce qu'on a envie. Quoi. C'est assez particulier quand même comme principe.
Tout à fait. Alors, il y a ça. Il y a la frontière aussi entre le sud de la Syrie et le nord d'Israël, donc dont une partie, on sait, du territoire syrien est occupée depuis 73. Est occupée par Israël, où il y a là aussi des accrochages, puisque la Syrie n'a jamais reconnu cet accaparement de terres syriennes par Israël, et donc, à l'occasion, il y a des accrochages, et ça n'empêche pas, là non plus, très régulièrement, l'aviation israélienne d'aller bombarder des sites militaires ou civils sur le territoire de la République arabe syrienne qui n'est pas en guerre. Hein. Bon, et ça, personne ne dit rien. C'est normal. Tout d'un coup,
on a l'impression que c'est un jeu vidéo. On joue à toucher couler et c'est la fête du slip.
Tout à fait.
C'est n'importe quoi.
Voilà. C'était il y a quoi, 15 jours, 3 semaines, où l'armée israélienne vient détruire deux aéroports civils qui fonctionnaient correctement en Syrie, donc Alep et Damas. Bon. Alors après quoi, maintenant les vols civils atterrissent sur une base russe, donc effectivement c'est un peu plus tranquille. Mais on est là aussi en état de guerre. Donc Israël est en guerre avec tout le monde autour, et en fait on fait comme si ces autres conflits n'existaient pas. Ils existent, et par contre, ça suppose... Alors l'intérêt par exemple de la résistance au sud Liban, c'est qu'une partie de l'armée israélienne ne peut pas aller passer ses journées à tuer des Gazaouis, parce qu'il y a une partie de l'armée israélienne qui est occupée au nord. Et donc, ils sont obligés de répartir leurs effectifs. Vas-y.
Sur la mer Morte,
oui.
Il y a les Jordaniens d'origine
palestinienne
bien sûr,
oui.
Et même de la résistance irakienne qui sont là aussi.
Tout à fait. Ça, c'est un élément nouveau aussi. Il y a des éléments de la résistance irakienne qui commencent à tirer des roquettes sur Israël, etc. Alors, c'est nouveau en ce sens. Alors, souvenons-nous, je parlais de 2003 tout à l'heure, souvenons-nous que depuis 2003, l'Irak est occupé par l'armée des États-Unis. Alors le Parlement irakien a plusieurs reprises à voter en disant il faut qu'ils s'en aillent, mais ils ne sont pas partis. Ils ont réussi à diviser les élites irakiennes entre différents courants et tout. Bon, ils sont toujours là, et donc il y a une présence militaire réelle, mais il y a aussi maintenant une résistance active militaire qui intervient à la fois sur le sol irakien et qui maintenant intervient par rapport au conflit à Gaza et en Palestine. Ça, c'est un élément tout à fait nouveau dans la situation.
Avant, ils essayaient de s'en servir des religions.
C'est un classique, diviser les religions et les différents
courants. Maintenant, ce n'est plus le cas. Tout le monde a compris au Moyen-Orient que la religion, on la met de côté, exact. C'est la résistance.
Voilà.
Après, pour parler et rebondir sur le fait qu'ils disent de diviser, comme vous dites, il y a une vieille phrase que j'ai pu connaître quand même un petit peu, c'est de diviser pour mieux régner. Et je pense que si c'est ce qu'ils essaient de faire.
C'est exactement ça. C'est la vieille règle qui est la règle fondatrice de l'Empire britannique. C'est la règle coloniale la plus classique.
Oui, mais ils sont restés toujours sur le même principe.
Tout à fait.
L'occupation, voilà. Le colonialisme, même économique, politique.
Tout à fait.
Voilà, je te laisse parler.
Alors, que la Syrie résiste, c'est normal qu'elle résiste parce que la Syrie, c'est tout. C'est tout. Elle est au courant de tout, puis elle a tout bien observé, parce que la Syrie, elle est là depuis longtemps. Et j'allais dire même l'entité syrienne, qui a eu des tailles différentes sur l'histoire, mais elle est aussi vieille que la fameuse entité juive dont on nous parle dans les discours de Netanyahou. Hein. La Syrie, sur les cartes, s'est dessinée depuis bien avant Jésus-Christ. Hein. Ouais. Bon, ça, il ne faut pas l'oublier. Mais pour revenir beaucoup plus près de nous, il faut savoir que les Syriens, qui existaient en tant que pays sous mandat de la Société des Nations, mandat exercé par la France, ont vu ce que c'était que l'arrivée des colons israéliens. Et ça ne s'est pas passé après 1947, ça s'est passé en 1938. Ouais. C'est-à-dire que quand les colons israéliens arrivent, ils constituent des bandes armées, hein, des milices, qui tuent des Palestiniens, donc des résidents, des locaux et tout, pour leur dire qu'il faut prendre le chemin de l'exil. Hein, c'est ça qui se passe. La principale révolte qu'on appelle la révolte arabe a eu lieu en 1938, et il y avait déjà trois organisations terroristes sionistes qui fonctionnaient, dont une dirigée par un futur premier ministre israélien.
Israélien, bon.
Ça, les Syriens l'ont vu, ça se passait chez eux, donc ils savent très très bien ce que c'est que le sionisme en action sur le terrain. Ils le savaient tellement bien que quand en 1947, je le rappelais l'autre jour, l'Assemblée générale de l'ONU se réunit pour dire bon, finalement on va créer deux États, un État palestinien et un État juif, la Syrie est un des quelques rares pays qui vote contre. Sur la base, vous allez semer le désordre. C'est-à-dire, on les a déjà vu faire, les colons sionistes avec leurs milices armées. Hein, ça va être la catastrophe. Bon, effectivement, la catastrophe commencée en 1947 continue encore aujourd'hui. Alors, elle n'a pas commencé exactement le jour du vote à l'ONU. Elle a commencé 6 mois après, mi-1948, quand l'État d'Israël s'est déclaré tout seul, créé,
ouais.
Donc l'État palestinien n'a pas été créé, puisqu'il y en avait un qui était créé, pas l'autre, et que l'ONU n'a rien dit. Alors là, on est devant une des faiblesses de l'ONU, qui a présidé, puisqu'il y a eu un vote majoritaire pour qu'il y ait ces deux États, et qui, chaque fois que le deuxième État a tenté de vivre, de sortir la tête de sa clandestinité, l'ONU a été incapable de faire respecter ce qu'elle avait elle-même décidé.
Jusqu'à présent.
Hein ? Et on n'arrête pas d'être dans cette situation-là où, effectivement, il y a eu encore ces jours-ci, je crois que c'était le 9, donc la semaine dernière, un vote de l'Assemblée générale pour arrêter ou condamner la colonisation des terres palestiniennes par Israël. Alors, c'est intéressant à regarder le résultat. Je l'ai là quelque part. Pour la condamnation des colonisations, j'en parlais tout à l'heure à propos de la Cisjordanie, il y a eu 145 États qui ont voté pour l'arrêt de la colonisation. Il y en a 7 qui ont voté contre. Israël, bien entendu, les États-Unis, le Canada, à la limite, c'est presque une annexe. La Hongrie, j'ai pas trop compris pourquoi. La Hongrie avait voté contre. Et puis, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, les îles Marshall, la Micronésie et Nauru, donc 100 000 habitants, 20 000 et 10 000 de l'autre côté. Bon, ce qui ne représente rien. Voilà. Et puis, il y a 18 États qui se sont abstenus. Là, c'est aussi intéressant parce qu'il y a, en particulier au niveau du continent africain, ceux qui s'abstiennent et ceux qui ont condamné la colonisation. Et ceux qui s'abstiennent, c'est ceux qui sont les plus vendus à l'impérialisme français. Je veux parler de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Togo.
Ça, c'est le Sénégal, il n'y est pas.
Non, le Sénégal a voté. Non, pour une fois, le Sénégal a voté contre la colonisation. Donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe à l'ONU. Maintenant, donc, une fois qu'on a situé cet aspect militaire au sol, il y a l'aspect militaire autour. Autour, ça veut dire qu'il y a autour de cet abcès, c'est un aspect stratégique et un aspect militaire de taille mondiale, il y a énormément de monde. Il y a en particulier, on le sait, 2 porte-avions des États-Unis, avec ce qui va autour. Vous savez qu'un porte-avions, c'est un élément fragile, il faut qu'il y ait beaucoup de monde pour le protéger tout autour. Il y a un porte-hélicoptère états-unien. Alors le porte-hélicoptère, ça a une fonction un peu différente. Bon, ça a des hélicoptères qui peuvent être des hélicoptères d'attaque, puis surtout, ça peut débarquer des troupes d'assaut. Hein, donc, tout ce qu'on veut, il y a des commandos spéciaux, etc.
Moi, je ne pense pas tellement pour Gaza qu'ils ont fait venir ce porte-avions. C'est l'Iran qui les emporte.
Voilà,
le
et
plus.
Puis c'est un peu. Il y a un aspect rodomontade, c'est-à-dire regardez comme je suis fort, mais qu'est-ce que tu vas faire dans Gaza avec un porte-avions
130 km.
Rien du tout. En fait, c'est plus pour impressionner l'opinion. Et ce qui m'a mis sur cette piste, c'est le fait qu'ils se sont mis à afficher. Alors, ça, c'est assez rigolo. Il y a des aspects rigolos dans l'affaire. Ils ont montré qu'il y avait un sous-marin nucléaire lance-engin qui arrivait en Méditerranée orientale, donc à proximité de Gaza et d'Israël. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sous-marin nucléaire lance-engin ? C'est un sous-marin à propulsion nucléaire qui est capable de lancer des missiles balistiques à tête nucléaire, donc des bombes atomiques pour être simple. Bon. Alors, c'est rigolo. Pourquoi c'est rigolo ? Ça, je ne devrais pas rire. En fait, le propre et l'avantage militaire d'un sous-marin nucléaire lance-engin, c'est que personne ne sait où il est, à part le chef d'état-major et le chef de l'État.
Bah forcément,
puisqu'il faut qu'il soit caché.
Forcément, on revient sur ce que vous avez dit tout à l'heure. On ne sait rien de ce qui se passe
dessous,
en dessous.
Dessous, voilà. Or, il se trouve que là, c'est publié, en veux-tu, en voilà, des photos de ce sous-marin en surface arrivant au large d'Israël. C'est une farce, hein, parce que probablement, il y en avait peut-être deux autres qui y étaient déjà, mais qui, eux, étaient dans leur mission, ils étaient sous l'eau. Aussi bien, il y a un des quatre sous-marins nucléaires lance-engins français qui est au même endroit, hein. Personne ne le sait. Macron le sait, hein, le chef d'état-major le sait, mais c'est tout. Hein.
Donc il y a peut-être une pression.
Il y a probablement. Voilà, c'est la pression. C'est la pression par rapport à ceux qui disent il faut un règlement politique, il faut que les deux États fonctionnent. Donc l'État israélien, il fonctionne, hélas, trop bien de ce certain point.
Bernard, ce qui importe le plus, c'est les génocides.
Mais bien,
moi,
sûr, bien
pour,
sûr.
Pour le moment, le. Deux États, on verra ça plus tard.
Oui, oui. Ah, mais là,
là
on
parle de deux États.
Blocage. Oh, on parle de deux. Mais la suite, c'est quand même un État palestinien qui serait en capacité de dire on ne me marche pas sur les pieds, on ne rentre pas chez moi tous les jours.
Hein. Non, bien sûr.
Hein, ça reste un objectif politique. Donc c'est pour ça que je citais cette histoire du sous-marin, du sous-marin qu'on montre. Regardez, un sous-marin qui devrait rester caché puisque c'est sa fonction et c'est la façon qu'il a d'intervenir. Et bien on le montre. Donc effectivement, ça fait partie des rodomontades, j'allais dire. Hein, on dirait rouler des mécaniques. Regardez, j'ai un sous-marin nucléaire. Mais on le savait que vous aviez un sous-marin nucléaire. Ça ne change rien, la situation concrète.
Et deux porte-hélicoptères français.
Voilà. Non, et il y a aujourd'hui, alors effectivement, je vais dire un petit mot.
Il paraît que ça sert d'hôpital pour essayer de soigner les Gazaouis. Oui.
Voilà, un petit
un
mot.
Peu,
puisque...
Ça ne fait pas rire, mais bon.
Non, je le dis parce que c'est intéressant de le dire en ce sens que si je parle de deux porte-hélicoptères français, ça veut dire que c'est vous qui payez, vous qui m'écoutez, vous citoyens français qui payez des impôts.
Ouais.
Alors, vous savez que tout le monde paye des impôts en France, même si vous n'êtes pas à l'impôt sur le revenu, vous payez la TVA. Donc vous achetez une baguette, vous avez payé un impôt. Hein. Vous achetez un litre de lait, vous avez payé un impôt. Bon, donc c'est vos impôts. Et donc effectivement, il y a
c'est
pour
l'instant... C'est une taxe indirecte.
Voilà, taxe indirecte, mais tout le monde la paye. Hein. Et alors en plus, elle est particulièrement inégalitaire, puisqu'en fait, que vous soyez au SMIC ou à 25 SMIC, vous payez la même...
Exactement la même taxe.
Le même TVA sur la même baguette. Hein.
Ouais,
bon,
tout à fait.
Ça fait partie de la fiscalité française. Et je peux vous dire que du côté du ministre des Finances, qu'il soit de droite ou de gauche, on trouve ça très bien, parce qu'on peut bouger les taux de TVA, passer de 19
à 20... Du moment qu'il y a des sous qui rentrent dans la poche,
et puis c'est indolore. Vous ne pouvez pas dire, je prends ma baguette et je dis au boulanger, la TVA, je ne la veux pas, et je soustrais moi-même les 10 euros, les 10 centimes.
C'est sûr que oui, là, ça ne va pas de possible.
Voilà. Alors, donc, ce qui se passe, c'est donc qu'il y a deux navires qui sont les porte-hélicoptères, la nouvelle série. Alors, je rappelle que ces porte-hélicoptères, donc le Dixmude et le Tonnerre, sont des navires qui sont identiques à deux navires dont on a beaucoup parlé à l'époque et dont on ne parle plus, dont on ne se vante pas. Mais il y avait deux navires qui étaient en construction au chantier naval de Saint-Nazaire, qui est le plus gros chantier français existant, qui avait été commandé par la Russie. Et un beau jour, et ça a eu lieu, il faut le rappeler pour bien montrer ce qu'est la France d'aujourd'hui, un beau jour, la Maison-Blanche, Washington a dit à M. François Hollande, président de la République, « Vous ne devez pas livrer les deux porte-hélicoptères à la Russie. Nous ne voulons pas. » Et qu'est-ce qu'il a fait, le président de la République française ? Il a dit « D'accord, je ne leur livre pas. » Alors, il n'aurait pas livré, effectivement. Les porte-hélicoptères ont été rachetés, d'ailleurs, par l'Égypte.
Hein. Ouais.
Et bien entendu, la France a payé, la Russie a exigé d'être dédommagée, puisqu'elle avait déjà payé une partie de la commande et tout. Il y avait rupture de contrat, donc dans les contrats commerciaux, celui qui rompt le contrat d'une façon tout à fait illégitime doit payer. Bon, ça a coûté très très cher à la France, hein, mais Hollande a montré qui il était, c'est-à-dire a montré qu'il était couché. Quand il recevait un coup de téléphone des États-Unis, il était couché, il disait « oui patron, c'est tout ». tout. Il faut bien l'interpréter pour ce que c'était. Bon. Donc on a encore deux bateaux.
Il suffit juste de regarder leur force de frappe entre nous, les Français, et puis eux. On ne va pas franchement faire le point, je pense.
Oui, bien sûr. On se demande même si à qui on fait peur. Moi, j'en faisais une question que je me pose.
C'est une bonne question.
Oui, souvent, quand j'ai des débats là-dessus, je dis, mais qui est notre ennemi? Vous avez vu, il y a des pays qui veulent envahir la France pour faire quoi?
Personne.
La Russie a besoin d'envahir la France avec le pays qu'ils ont, la taille qu'ils ont, les ressources. Vous riez? Ils vont pas s'embarrasser avec la France.
Hein. Non, mais non, bien sûr.
Quelle idée. Bon. Et ça m'amène à parler de François Hollande et à faire une transition pour parler de ce qui s'est passé. C'était donc ce week-end, ce dimanche précisément, dans les rues d'un certain nombre de villes de France, dont Marseille. Donc un appel à manifestation contre l'antisémitisme. Ou donc, si ça me fait la transition, c'est qui ont participé à Paris, M. François Hollande, ex-président de la République, et M. Nicolas Sarkozy, ex-président de la République. Ce qui est beaucoup. Hein. Outre les deux appelants officiels, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, il y avait toute l'élite dirigeante de la France, sauf Macron, qui peut-être a senti qu'il était peut-être habile de ne pas y être. Donc a fait faire le boulot par les autres.
Disons que je pense qu'il ne montre pas trop le bout de son nez en ce moment, vu les circonstances et les conneries qu'il est en train de faire en ce moment.
Il y a des chances.
Je pense qu'il a plutôt préféré se rester caché ou se faire frapper.
Voilà, plutôt que de prendre. C'est les autres qui ont porté. Alors, on revient sur cette question de l'antisémitisme. Alors, on l'a déjà abordé il y a 15 jours. D'abord, c'est stupide comme terme, puisque les sémites, les arabes, sont aussi sémites que les juifs. Bon, donc ça, le terme n'a pas de sens. Donc, il s'agit d'attaques contre les juifs. Pour faire simple. Alors, quand on a dit ça, on n'a presque rien dit. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un juif, après ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un juif ? C'est un problème compliqué. Parce que vous avez d'un côté une chose claire qui est la religion judaïque. Ouais. Hein, et donc, vous avez des gens qui adhèrent à cette religion, qui la pratiquent, le Shabbat, etc. Tout ça, la lecture de la Torah, le respect des préceptes de la Torah, etc. Eux, c'est clair. Hein, ils disent, nous, on a cette religion, comme d'autres ont la religion chrétienne, sous ses différentes formes.
Ouais, hein, la Bible.
Voilà. Donc, pas de souci. Mais après, vous en trouvez autant que vous voulez, vous avez trouvé des gens qui disent, ah oui, je suis de famille juive ou d'origine juive. Ou de culture juive. Alors, lui, qu'est-ce que c'est la culture juive ? Ah ben, ils ont lu la Torah quand ils étaient petits parce que papa, maman leur faisait lire, mais ça s'arrête là. Et donc, là, on a un concept assez flou. Qu'est-ce que c'est qu'un juif ? Et vouloir du mal à un juif, ça veut dire vouloir quoi ? Alors, ça peut être effectivement. Alors, l'aspect caricatural, ça a déjà eu lieu en France et c'était d'origine Rassemblement National ou Front National. Vous allez mettre le feu à une synagogue, donc vous en prenez clairement à une religion. Mais après, si vous dites mort aux juifs, vous ne savez pas qui vous visez. Est-ce que c'est un juif croyant ? Est-ce que c'est un juif dont la famille a été brûlée à Auschwitz ? Est-ce que c'est un juif qui est de famille juive, qui porte un nom juif ? Alors, il y a aussi porter des noms juifs, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors ça, pour ma part, je dirais plutôt que c'est une sorte d'amalgame, en fait, quand on dit mort aux juifs, parce que pour ma part, en fait, on touche tout et n'importe quoi. En fait. Voilà. Enfin, tous ceux, on va dire, qui sont de proche ou de près à la communauté juive, donc ça ne change strictement rien, en fait.
Exactement.
Ça reste juste une phrase de propagande d'incitation à la haine. Quoi.
Voilà, exactement.
C'est pas plus, pas moins. Quoi.
C'est un facteur de division. Voilà. Je peux vous dire, puisque c'est quand même l'occasion de la citer, j'ai eu l'occasion, donc c'était pendant cette année 2023, d'interviewer donc une historienne qui porte un nom juif et qui dit « je suis de famille juive » et qui a dit à l'antenne, on peut la retrouver sur les podcasts, « moi, j'ai pas de rapport avec la religion, j'ai lu les bons textes parce que mes parents me les ont fait lire, etc. » Mais pour moi, elle m'a dit, je cite son propos, ça, j'espère ne pas le déformer de mémoire, elle a dit « en fait, je m'affirme comme juive parce que je porte témoignage que je partage la souffrance des gens qui ont souffert parce qu'on les a accusés d'être juifs. » Donc c'est tout, elle dit c'est pour ça, parce qu'il y a tellement de gens qui ont été éliminés, hein, les pogroms, etc., parce qu'on leur a mis l'étiquette juive, que je dis je suis juif pour eux, pour leur souvenir. Moi, la religion juive, j'en ai rien à faire, c'est pas mon problème.
Tout à fait, bien sûr, on en revient justement au fait d'Hitler et des camps d'Auschwitz, justement,
exactement,
directement.
Exactement. Et elle avait une partie de sa famille, bien entendu, qui était morte dans les camps. Hein. Ouais. Voilà, alors on en arrive à un concept. Alors quand vous dites que vous êtes contre les juifs, ça ne veut pas dire grand-chose, puisqu'on est contre un concept qui lui-même est flou.
Bien sûr, mais ça peut être contre les juifs comme ça peut être contre les personnes qui sont d'origine maghrébine ou tout autre truc, ça revient exactement au même principe.
Exactement. Alors ce week-end on était sur l'antisémitisme sur ces bases-là, c'est-à-dire une base extrêmement floue, dans une opération menée par les j'allais dire les élites, et le terme me gêne un peu, mais les couches dirigeantes de la nation, soyons plus clairs, ce qui donc a pris la forme Hollande-Sarkozy, le président Larcher du Sénat, etc., ce qui à Marseille a pris la forme, le président de la métropole, la présidente de la métropole, Mme Vassal, le président de la région, M. Muselier, et, je l'ai un peu regretté, mais c'est comme ça, et c'est pas une surprise, le maire de Marseille. Qui est allé de son discours, c'est-à-dire il a fait sien tout le discours en disant « Oh, il y a eu des bombages antisémites voilà. ». Qu'est-ce que ça veut dire un bombage antisémite? Et qui l'a fait? Et payé par qui? Et pourquoi? Mystère. Hein. Donc, hélas, j'allais dire, pour moi, ce n'est pas une surprise, je le dis pour les auditeurs marseillais, M. Payan, ex-militant socialiste, qui maintenant s'est dit de divers gauche pour plus être au Parti Socialiste, est tout à fait dans le droit fil de M. Gaston Defferre, etc. Donc, c'est un socialiste sioniste, clairement. Bon. On le savait. Alors, je ne sais pas ce que ça donne dans sa majorité municipale, où peut-être tout le monde n'est pas du même avis, mais enfin, lui, il y est allé, puis il a pris position fermement devant les caméras pour dire que ce n'était pas bien l'antisémitisme. Bon, merci, Monsieur Payan. On s'en serait passé. Bon. Je voulais... alors, on peut peut-être faire profiter, là, de reprendre un petit peu le souffle et d'écouter une musique, qui est une chanson donc, chantée par une Française sur Gaza, pour nous remettre dans l'ambiance, que tu vas retrouver.
Alors, si je me trompe pas, c'est bien Dominique, c'est
Dominique
ça ?
Grange, voilà.
Bien sûr. Alors, on y va tout de suite.
Les enfants de Gaza. assassinés par leurs missiles, poussant à haine les Zakaria et Muhammad et Ismaïl. Petit l'occupant et sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies, il veut imposer la terreur.
On interrompt un peu Dominique Grange parce qu'on a eu un appel d'un auditeur auquel on va tenter de répondre.
Oui. Ouais.
Mais écoutez, moi, pour l'instant, j'attends tout simplement qu'il me rappelle.
Qu'il rappelle, d'accord.
Voilà, okay. Je lui ai dit de nous rappeler sous les coups de 5 minutes, donc vous avez le temps de pouvoir continuer.
Donc, on va continuer. Alors, d'une part, pour revenir sur les événements...
Ah, je crois qu'il est déjà là.
Le voilà, on écoute. Bonjour. Allô. Allô.
Bonjour.
Bienvenue.
Il y a trois choses, parce que déjà, Dominique Grange, je crois bien que c'est une chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Les nouveaux partisans ».
Oui, c'est à la fête à propos d'une autre période de l'histoire, mais tout à fait. C'est une dame, elle a chanté ça pour l'association juive pour la paix, mais c'est une dame qui a 80 ans, donc ça fait quelque temps qu'elle chante.
Ah oui.
Puisque ses premières chansons datent de mai 68. Ouais.
Oui, c'était tout un programme. Hein.
Voilà, tout à fait. Voilà, dites-moi alors, qu'est-ce qui vous amène ?
Alors, voilà, moi, je voulais poser la question de savoir la question de la consubstantialité de la judaïté avec le sionisme, parce que je passe pour antisémite quand je critique le sionisme.
Ah ben, en gros, on peut dire que c'est les deux faces d'une même médaille, c'est-à-dire il y a une face qui est la judaïté, donc j'ai essayé de m'expliquer là-dessus, c'est déjà assez compliqué en soi puisqu'il y a l'aspect religieux, il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect soutien à une communauté qui a historiquement beaucoup souffert, ça c'est le côté que j'ai développé tout à l'heure, et puis il y a le sionisme qui est un courant d'abord porté par des bourgeois juifs, c'est pas un courant populaire, hein, et qui est un courant disant qu'il faut que nous ayons un État, c'est-à-dire qu'on se comporte comme tous les autres peuples du monde. Alors que dans la culture juive, si je peux me permettre, il n'est pas question de dire on aura un État, sauf dire il a été écrit qu'on pourrait revenir. Hein. Mais alors, à ce moment-là, si on reprend...
Le Messie.
Voilà, et on reviendra quand il y aura le Messie. Alors ça voudrait dire, si effectivement on était en règle et si on connaissait bien la Torah, que le Messie est là et qu'à la limite, le Messie, c'est Netanyahou. Donc puisqu'il est arrivé, on est chez nous. Alors on est dans le ridicule. On est dans le ridicule parce qu'effectivement, le retour à la terre promise, c'était quand on avait trouvé le Messie. Donc là, ils sont retournés, ça fait déjà un certain temps, hein, ça remonte aux années 30, disons. Le Messie est toujours là, n'est toujours pas là, ou alors il y a quelqu'un qui se prend pour le Messie et qui n'en est pas vraiment un, et qui, vu ce qu'il fait aujourd'hui, parlant de Bibi Netanyahou, ne mérite pas le titre. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est pas l'homme de paix qui est là pour le bien de l'humanité. Bon, donc on est dans une confusion extrême, et donc les sionistes... manipulent les textes officiels de leur religion pour transformer ça en un instrument impérialiste et de colonisation.
Et d'occupation.
Et toute leur attitude par rapport aux Palestiniens montre bien qu'ils ne sont pas là comme le Messie arrivant avec les mains pleines de roses et l'amour, etc. Au contraire, ils manifestent de la haine et ils passent leur temps à essayer de supprimer les Palestiniens, ce qu'ils font à Gaza en ce moment, mais ils n'ont jamais arrêté de le faire dans des proportions un peu plus petites. C'est bien ça le problème. Donc... Non, il n'y a rien à voir. J'allais dire, c'est la face négative, c'est la face impérialisme de la judaïté. C'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire, c'est des bourgeois qui ont dit, on veut être comme les autres bourgeois, voir nos États, nous, notre armée, etc. Et donc, la leçon donc, messianique de tout le monde s'aime, ça y est, on est l'Éden, c'est le paradis. Le paradis, c'est pas à Gaza, c'est ni en Cisjordanie. Ils n'ont pas fait le paradis. Les sionistes en Israël ont amené l'enfer pour les Palestiniens. Donc, où est le paradis ? Et même alors, je voudrais dire, du côté des Israéliens, le paradis, il n'est pas l'ordre du jour non plus. Service militaire prolongé, des conditions... Voilà. Donc, où est le... Alors, c'est vrai qu'au niveau du pouvoir d'achat moyen, c'est évidemment le jour et la nuit entre les Palestiniens et les Israéliens, mais c'est tout. Par ailleurs, on sait que la société israélienne, elle n'est pas dans un excellent état.
Une grande personnalité en Israël actuellement, qui sont à la tête du pouvoir, a traité les Palestiniens des animaux à visage humain. Oui, tout à fait. Vous vous rendez compte.
Alors là, ça ne s'est pas passé par la Torah, ça s'est passé à côté. Donc c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Donc il y a une opposition flagrante entre le sionisme qui est une forme de l'impérialisme, et c'est d'ailleurs pour ça que les États-Unis soutiennent par tous les moyens possibles l'État d'Israël, parce qu'au fond, ils se ressemblent énormément. Alors, Israël, c'est un impérialisme petit, mais comme il a les dollars derrière, les 6 millions de juifs américains, dont 2 millions à New York, etc., qui sont derrière et qui ont un pouvoir sur le pouvoir politique états-unien extraordinairement fort et bien supérieur à leur quantité numérique. C'est rien, 6 millions de juifs sur 330 millions. Mais leur pouvoir réel est énorme. On le connaît, on sait comment ils s'exercent, etc. Au point que... Vous vous souvenez, il y a peut-être quoi, 3-4 semaines, Blinken vient à Tel Aviv et il dit « Je viens en tant que secrétaire d'État ». Bon, ça c'est son poste. « Je viens aussi en tant que juif ». Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, tu viens défendre les juifs. Tu viens pas essayer d'amener la paix sur le terrain palestinien. Tu viens défendre les juifs. Tu es un sioniste. Hein, je viens en tant que sioniste et j'arrive avec mes F-35, mes dollars, etc. Alors, le sionisme, c'est ça. C'est exactement l'inverse de la religion juive. Ouais. Et c'est pour ça qu'on trouve autant de rabbins qu'on veut qui disent que l'État d'Israël mène une politique épouvantable. Voilà, est-ce que j'ai répondu même brièvement à votre question?
Ah ben oui. Mais toujours la même équation, bourgeoisie, possession, appropriation, ben voilà. Guerre, ben génocide.
Ben oui, exactement. Oui,
toujours pareil,
c'est la phase bourgeoise de... Alors, même pas de la... C'est pas ça, la religion juive. Évidemment, c'est pas ça.
Ah ouais. Non.
Voilà. Bon, encore merci.
Ouais, donc on a une manipulation complète. On peut même dire que le sionisme est une forme d'antisémitisme, puisque ça décrédibilise le...
Oui, bien entendu. Bien entendu. Alors, puisqu'on en est sur ce sujet, deux mots. Je vais vous raconter un peu l'origine de la déclaration Balfour. Ça va tout éclairer. Vous connaissez la déclaration Balfour. Donc, on est en 1917. Monsieur Balfour est donc Premier ministre de Sa Gracieuse Majesté britannique. Et il va rencontrer Monsieur Rothschild, banquier, comme chacun sait, de son État, banquier à Londres, puisqu'il y a des Rothschild dans différents pays. Et il va lui dire quoi ? Il ne va pas lui dire « on va s'occuper de l'État d'Israël ». Il va lui dire « écoutez, on a besoin d'argent pour finir la guerre parce qu'on veut gagner la guerre contre l'Allemagne ». Et l'autre lui dit « ah ben, si vous voulez de l'argent, allez, je vous avance de l'argent ». Parce que les États-Unis en donnaient un peu, mais ils tardaient beaucoup. Vous savez que les États-Unis sont rentrés en guerre qu'en 17 et donc effectivement, ils n'envoyaient pas trop d'argent. Et donc Rothschild donne de l'argent. En échange de quoi, il fait signer par M. Balfour, Premier ministre britannique, une déclaration disant qu'il y aura constitution d'un foyer juif en Palestine. Or, cette déclaration, moi j'insiste là-dessus, du point de vue du droit international, ça vaut rien, c'est zéro. Hein. Un Premier ministre qui écrit à un banquier « je vous donne un bout de territoire à vous et à vos copains dans le territoire d'un autre État » parce qu'on est dans l'État, l'Empire ottoman à l'époque. Donc, attribuer un morceau de l'Empire ottoman à un banquier parce qu'il vous a fait un prêt, on est dans, c'est une monstruosité juridique.
C'est de la prévarication.
Complètement. Complètement.
Ouais, c'est de l'aberration en fait, ça veut strictement rien dire.
Ben voilà, mais on porte encore les conséquences de la déclaration Balfour. Ouais.
Et donc du coup, comme je ne voulais pas couper tout à l'heure, quand vous avez dit donc justement que le sionisme n'est pas donc justement absolument pas la religion donc des juifs, ça me fait penser donc justement à tous ceux qui font dans le djihad et tous ceux qui sont justement voilà, enfin j'ai plus le nom en tête, mais bon vous m'avez compris.
Les djihadistes, les takfiristes ou djihadistes, tous ceux qui font la guerre sainte ou non.
Cela, c'est pareil, c'est exactement la même chose. La religion islamiste n'est absolument pas cette religion-là.
Pas du tout.
C'est exactement la même chose.
La grande majorité, l'immense majorité des musulmans est pacifique. Elle veut pratiquer son culte tranquillement.
C'est ça. Il n'est pas un culte. C'est exactement le même concept.
Exactement. Et on a la même symétrie des deux côtés. Voilà, non, c'est très bien que... Merci, monsieur, pour cette question. Alors,
je voulais poser une question par rapport à une référence scientifique ou historique. C'est par rapport à l'émission de la semaine dernière sur l'intégrisme, sur la montée de l'intégrisme.
Oui.
J'ai vu un livre qui s'appelait « Seiya et Djihad » de John Cooley.
Oui, 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 il est connu. Ben, en fait, effectivement, on connaît les modes de financement et de recrutement. Hein, il faut savoir qu'un djihadiste, il y a eu des djihadistes français, on le sait, puisqu'il y en a qui sont partis en Syrie, qui sont revenus. Hein. Donc, on a les témoignages, on sait tout ce qu'on veut savoir. Mais ben, effectivement, il y avait un gros salaire, une formation, et puis il s'agissait d'aller tuer des Syriens. Puis c'était
moi,
tout.
Je n'appelle pas des djihadistes, j'appelle des mercenaires.
C'est des mercenaires, oui. C'est des mercenaires, mais au fond, c'était, tout ça était financé.
À proprement, appelé ici pour nous des... des radicalistes.
Oui, ben, oui voilà, des radicalistes. Voilà, tout à fait.
Alors, parce que les... John Kakule montre que, quel que soit le pays, les mouvements armés ont été financés par les États-Unis, l'Europe, ouais. Le Safari Club, et puis
Le Qatar,
ils ont été financés pour déstabiliser les tentatives de panarabisme laïque et le communisme.
Tout à fait, tout à fait. Là, on est tout à fait clair. Oui, pas de souci de ce côté-là.
C'est très saisissant, cette histoire.
Oui, c'est très saisissant. Alors, on va faire quelques mots de conclusion.
Merci
d'être à l'écoute de notre émission régulièrement.
Merci de votre continuation.
Merci. Alors, un mot sur le positionnement de la Russie qui est important, puisqu'il s'est tenu, donc, Poutine a organisé une réunion de ce qu'il appelle le Conseil de sécurité. Il y a un Conseil de sécurité national en Russie, donc en présence du Premier ministre, du président de l'Assemblée, etc. Bon, il y avait la hiérarchie politique de la Russie, et il a dit très très clairement ce qu'il avait à dire, c'est-à-dire que le positionnement de la Russie dit « ce qui se passe maintenant est inacceptable, et tout ce qui se passe maintenant est orchestré par le même pays, c'est-à-dire les États-Unis, il a mis le doigt sur la plaie, l'Ukraine c'est eux, la Palestine c'est eux, les djihadistes là c'est eux aussi,
et il Taïwan.
Dit, voilà, Taïwan c'est eux, il dit, voilà, hein, ils sont derrière tout, et la lutte que nous avons engagée sur le sol ukrainien, c'est une lutte contre cette domination-là de gens qui mettent la guerre partout, avec différents moyens. Pour les djihadistes en particulier, je pense à la bande du Sahel, il faut savoir qu'aujourd'hui, alors c'est une innovation, l'armée burkinabé qui s'est mise à s'organiser sur ses propres moyens en mettant à la porte les forces françaises envoyées par François Hollande, eh bien ils sont en train d'éliminer les djihadistes. Parce que les djihadistes, dès l'instant où ils ne sont pas tenus et financés par les gens de l'extérieur, c'est des mercenaires. Quand ils voient que c'est perdu, ils s'en vont. C'est tout. Alors, ils peuvent aller faire le mal ailleurs. Mais là, l'armée burkinabé est en train de les mettre à la porte. Même chose au Mali. C'est-à-dire qu'il a suffi qu'il y ait deux vraies armées nationales et pas des armées coloniales avec les armées de François Hollande au milieu pour que la situation s'améliore. Hein, ça, c'est une leçon.
Même au Niger aussi.
Mais oui, c'est une situation très, très intéressante. Dernière chose que je voudrais évoquer, il nous reste juste 2 minutes, on en reparlera largement la semaine prochaine. Ce qui se passe, il y a un autre foyer de tension, mais heureusement plus petit, et ça ne dégénère pas pour l'instant en bagarre, c'est autour de l'Arménie. C'est-à-dire que là encore, les États-Unis s'appuyant sur l'équipe qui est à la tête de l'Arménie, donc Pachinian et ses amis, et sur la diaspora, donc les Arméniens de Russie et même les Arméniens de France, la majorité d'entre eux, est en train d'essayer de mettre le désordre entre l'Azerbaïdjan, l'Iran, la Turquie et la Russie. Alors, ils n'y arriveront pas, je pense, parce que les relations en particulier entre l'Azerbaïdjan et l'Iran sont beaucoup plus étroites qu'on ne le pensait, et ils vont éviter de tomber dans ce piège. Mais ce qu'il faut voir, j'en parlais la semaine prochaine aussi à propos du Sud-Soudan, le Sud-Soudan qui est un État qui a été fabriqué à coups de dollars et d'influence par les États-Unis et Israël, toujours eux, pour affaiblir le Soudan, qui était pro-palestinien, on le savait, tout le monde le savait.
Le découpage, voilà. Ils ont voulu faire.
Le Sud-Soudan est en train, alors ça s'est concrétisé par la visite du chef de l'État à Moscou, de demander à faire partie, à être soutenu militairement par la Russie, et même à rentrer dans les BRICS à terme. Vous voyez qu'on a un basculement complet, donc un État qui a été fabriqué pour mettre le désordre en Afrique par Israël et par les États-Unis, qui est en train de dire, je ne peux pas travailler avec eux, je vais travailler avec les Russes, parce qu'eux sont plus sérieux et plus respectueux de ce que nous sommes. Voilà, pour conclure, merci beaucoup Brandon.
Ben, merci à vous messieurs.
Et on se retrouve volontiers quand tu es là, voilà.
Avec plaisir.
Merci encore.